On va commencer. Merci beaucoup à tout le monde d'être là et à tous ceux qui sont venus à tous mes cours. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Alors, cette semaine, on va terminer la fin du cours précédent. J'avoue que cette année, j'ai eu un peu de mal à garder le temps. Et puis, on va quand même parler des maladies auto-immunes. Ça risque d'être un tout petit peu long. Je promets que ça ne sera pas plus qu'un quart d'heure de trop. Mais vous pouvez partir si vous voulez. Je ne serai pas vexée. Voilà. Mais donc, je voulais commencer en faisant un résumé de la semaine dernière. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'informations et aussi un ou deux points que je n'ai pas eu le temps d'incorporer et que j'aimerais bien quand même juste vous présenter des phénomènes que je trouve assez fascinants. Donc, on a parlé de l'inactivation du chromosome X et le fait que c'est aléatoire chez nous, les humains, et aussi chez la plupart des mammifères placentaires. Donc, c'est soit le X paternel, soit le X maternel qui est choisi au cours du développement pour être inactivé, réprimé. Et ce choix est presque aléatoire. Et donc, à partir de chaque cellule qui a inactivé ou qui a fait ce choix, ce choix est mémorisé. Donc, le même X restera inactif au cours des divisions cellulaires. Donc, ça, c'est l'épigénétique. On va pas reprendre tout ça. Mais ce mosaïcisme est très intéressant parce que, effectivement, la plupart des femmes ou des femelles mammifères sont des mosaïques, mais qui sont différents d'un individu à l'autre. C'est très différent. Et on a parlé un petit peu la semaine dernière de pourquoi. Alors, d'une part, il y a l'aspect un peu stochastique du premier choix de l'inactivation. Donc, quand il y a que, je dirais, une centaine de cellules au moment de l'embryogenèse où c'est mis en place. Bien sûr, c'est jamais 50%, 50%, même si tout le reste est égal. C'est parfois un peu biaisé. Et ensuite, les cellules qui ont fait ce choix, en fonction du lignage et de l'organe, vont migrer et se mélanger avec d'autres cellules plus ou moins. Donc, on arrive à avoir des plages de cellules clonales qui peuvent être très différentes d'une femme à l'autre. Donc, je ne pense pas que Magritte avait pensé à ça quand il avait ce tableau, mais j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu ça. J'ai fait mon premier cours à Bruxelles cette année et je suis allée voir le musée Magritte. Et donc, voilà un tableau. Et ici, vous voyez un dessin d'un réel phénomène d'inactivation du X. Donc, un gène qui est sur le X qui affecte la production des glandes de sueur. Et vous voyez comment les femmes se présentent avec des plages de peau où les glandes de sueur sont normales parce que c'est le X qui est actif, qui porte le gène sauvage qui est exprimé. Et par contre, d'autres plages de cellules où c'est le X actif qui porte le gène muté. Et donc, il y a un problème dans ces cellules. Donc voilà, le mosaïcisme est montré ici. Et deux individus, deux jumeaux vont avoir un mosaïcisme qui est différent à cause de ces phénomènes dont je viens de parler. Mais aussi, et ça c'est très important, il faut réaliser qu'en tout cas, nous les humains, nous sommes extrêmement polymorphes. C'est grâce à ce polymorphisme que nous sommes si variés, mais quand il s'agit du chromosome X, c'est très intéressant parce que les deux X peuvent porter des formes différentes des gènes qui ne sont pas forcément des formes mutées, mais qui sont un petit peu variants. Et au cours du développement, l'expression d'un allèle ou l'autre peut influencer la manière que la cellule va se comporter, que ce soit la manière qu'elle va se diviser, la vitesse de division, ou même sa capacité de rester dans un lignage ou dans un tissu. Donc, en fait, c'est l'interaction entre tous les allèles des 1200 gènes que nous avons sur le chromosome X qui va faire en sorte que nous avons le résultat de mosaïcisme chez chaque femme. parce qu'il peut avoir une sélection secondaire au cours du développement et chez l'adulte même, qui fait que certaines allèles sont contre-sélectionnées ou contre-indiquées. Donc, il y a des possibilités énormes de combinaisons, vous pouvez imaginer. Donc voilà, les femmes, les femelles sont mosaïques, sauf dans certains cas où il y a un allèle qui est muté et qui a un impact très nocif très tôt au cours du développement. Et là, on peut avoir effectivement des femmes qui sont quasiment 100% avec un chromosome X actif et l'autre inactif. Alors, je vous avais parlé aussi des avantages de cette inactivation aléatoire dans certains organes. Par exemple, dans le cerveau, on a parlé beaucoup de ça la semaine dernière, et le fait qu'effectivement, et je vous avais montré ces souris fluorescentes où un X produit un gène vert et l'autre X un gène rouge, et ça permet de modéliser un peu dans certaines parties du cerveau comment les neurones vont réagir à des stimulus. Et donc, les chercheurs qui ont publié ce papier ont montré qu'effectivement, cette situation très spécifique sur le X, où chaque cellule va exprimer soit un allèle, soit l'autre, mais pas les deux, fait qu'on peut avoir une réponse à des stimulus qui est beaucoup plus variée que ce qu'on trouve, par exemple, pour un gène sur un autosome, où les deux allèles sont exprimés dans la même cellule ou dans la situation d'un mâle qui a soit un allèle, soit l'autre. Donc, en fait, ça, c'est des probables avantages d'avoir ce type de mosaïcisme. Bien sûr, l'autre avantage le plus évident, c'est que s'il y a une mutation sur un X, l'autre X peut le masquer si le choix est fait de la bonne façon. Mais mis à part cette histoire de contre-sélection, on peut aussi imaginer que les différents allèles sont, on va dire, exposés cellule par cellule, et ça peut avoir un avantage fonctionnel. Mais il y a aussi des désavantages, et c'est ça que je ne vous avais pas vraiment présenté la semaine dernière. Je voulais quand même vous citer deux, c'est rare, hein, quand même. Mais il y a quelques cas très intéressants où, en fait, une mutation sur le chromosome X ne montre un phénotype ou des symptômes que chez les femelles, que chez les femmes, pas chez les hommes. D'habitude, une mutation sur le X montre un effet chez les hommes de manière très aiguë, parce qu'il n'y a pas un autre allèle pour le masquer. Mais le cas contraire, où c'est que les femelles hétérozygotes qui montrent un phénotype, ça existe. Et je vais vous montrer ici deux situations où un gène sur le X est muté et les femmes ont un phénotype. Donc, un, c'est une forme femelle spécifique d'épilepsie qui affecte un gène qui est sur le X. Et en fait, ce sont des gènes qui sont impliqués en particulier dans les communications, les connexions entre les cellules. La plupart de ces maladies, en fait, sont liées à ça. Et donc, en fait, là où je vous dis que ça peut être un avantage d'avoir ce mélange de cellules, dans certaines parties du cerveau et pour certains types neuronaux, en fait, avoir un mélange de cellules qui produisent la protéine fonctionnelle et des cellules qui ne le produisent pas peut avoir un impact très nocif. Et donc, il y a une forme d'épilepsie et de retard mental qui existe quand ce gène PCDH19 est muté sur un allèle. Et donc, en fait, c'est la juxtaposition des cellules saines, enfin des cellules qui produisent la protéine et d'autres cellules qui ne la produisent pas, qui font que ces réseaux neuronaux ne sont pas fonctionnels et nous avons donc l'épilepsie. Donc, c'est moléculairement ou de manière précise, c'est toujours en cours de compréhension, bien sûr, mais en tout cas, c'est un exemple qui a été montré. L'autre exemple, c'est un syndrome de défaut crânio-facial dans le développement. Et donc, en fait, c'est un syndrome qui s'appelle, là en français, craniofrontonasal, donc le syndrome naso-fronto-crânial, peut-être. Désolé. CFNS. Et là, c'est pareil, c'est que les femelles, que les filles, les femmes qui sont affectées quand elles ont un allèle qui est muté et l'autre pas. Les mâles avec la mutation n'ont aucun phénotype. Et les femelles qui sont doublement mutées, homozygotes, pas de phénotype non plus. Et il s'agit d'un gène qui code pour la éphrine B1. Et là aussi, il s'agit d'un ligand et son récepteur. En fait, il s'agit de ce ligand FN, la forme B1. Il y a plusieurs zafrines qui sont des protéines transmembranaires qui sont sur les surfaces des cellules et qui sont très importantes pour la bonne connexion, la bonne communication entre les cellules au cours du développement dans le cerveau et en particulier pour la formation de la crête neurale et la formation donc de crânio-faciale. Et donc ces protéines, il y en a plusieurs. Et le problème, c'est que le ligand et son récepteur doivent se trouver pour déclencher la bonne cascade pour avoir une fusion correcte entre des cellules qui sont en proximité au cours du développement. Ici, je vous montre de manière très schématique. En fait, voilà, il y a le récepteur et son ligand. Et si le bon récepteur, le bon ligand ne se trouve pas, en fait, on peut se retrouver dans une non-connectivité entre les cellules. Et ce qui se passe, c'est que dans ces mutants hétérozygotes, certaines cellules produisent le bon récepteur et le bon ligand, et d'autres cellules, pas. Et c'est cette juxtaposition qui fait que le mosaïcisme ne permet pas de bien former le tissu. Et ici, je vous montre chez la souris le modèle qui a été fait. Et c'est à différents stades du développement, à jour 7 et demi, 8, 8 et demi. Et ici, vous voyez la formation donc, de la suture coronale, ça s'appelle. Donc ici, c'est la situation, on va dire, sauvage, où il n'y a pas de mutation sur les deux X. Et vous voyez que à chaque fois, c'est ce côté-là, vous voyez la forme que ça doit prendre à 8 jours et demi. Et quand vous voyez l'hétérozygote, où là, il y a... parfois la forme sauvage est inactivée, parfois elle est présente. Vous voyez déjà ce mosaïcisme dont je vous parle, la F-rine B1, vous voyez ici des plages de cellules où elle est présente et d'autres où elle n'est pas. Et vous voyez déjà à 8 jours, il y a des problèmes par rapport à la situation normale de formation. Et à 8 jours et demi, vous voyez, j'espère très bien que en fait, la fusion ne s'est pas faite de la bonne façon. Donc en fait, cette juxtaposition des cellules sauvages et cellules mutantes donne un phénomène ou un phénotype très aigu pour ce type de gène. Donc c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, ces juxtapositions dans des mosaïques peuvent donner des situations assez particulières, mais qui permet les chercheurs de comprendre comment la formation de ces structures doivent se former. Donc c'est quelque chose qui maintenant est utilisé pour justement modéliser comment ces molécules sont utilisées quand les cellules se rencontrent pour bien former les structures au cours de l'organogenèse. Donc, je vous avais aussi parlé des gènes qui ne sont pas soumis à l'inactivation. Il y a des gènes qui arrivent à échapper à l'inactivation. Certains de ces gènes ont un allèle aussi sur le chromosome Y, et c'est pour ça qu'il y a une copie qui échappe. Mais d'autres n'ont pas, et certains de ces gènes échappent toujours, et d'autres peuvent varier entre des individus et même entre des tissus. Et donc, en fait, la question, c'est... est-ce que cet échappement peut avoir un rôle? On a discuté un petit peu de ça la semaine dernière. Donc, pour certains de ces gènes qui sont impliqués très souvent dans les processus épigénétiques, il s'avère, on pense qu'ils ont peut-être un rôle justement pour le chromosome X dans le cas d'une femelle où il faut peut-être gérer l'inactivation du X et ses particularités. Et dans d'autres cas, il y a cet échappement variable. Et la question, c'est est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que ça peut être utile d'avoir des gènes en double dose dans certains tissus chez les femmes, alors que chez l'homme, ça n'existe pas? Donc ça, c'est encore un débat, et les questions restent ouvertes. Et aujourd'hui, avec ce que nous allons parler des maladies auto-immunes, vous allez voir qu'effectivement, peut-être c'est quelque chose qui est important. Et donc, il y a eu des publications qui suggèrent que cet échappement variable de l'inactivation du X varie beaucoup, est impliqué avec des déficiences intellectuelles. Et je vous avais parlé de MECP2 la semaine dernière, qui est impliqué dans le syndrome de Rett. Quand il est muté sur un allèle et sauvage sur l'autre allèle, on a des filles qui ont le syndrome du Rett. Une mutation chez les garçons est létale très tôt. Mais je vous avais montré que nous avons découvert dans mon équipe que dans certaines cellules, dans le cerveau, on voit que MECP2 échappe à l'inactivation. Et nous savons que les hommes qui ont une duplication de ce gène ont des problèmes aussi neuronaux et assez graves. Donc, en fait, on se pose la question, à quoi sert cette double dose d'MECP2 dans certaines cellules du cerveau? Est-ce que c'est un besoin très spécifique ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être nocif et qui arrive un peu par accident parce que l'inactivation n'est pas suffisamment bien verrouillée. Donc voilà, c'est de ça que je viens de vous parler. Voilà, certains gènes qui peuvent échapper de manière variable, qui pourraient avoir soit des avantages, soit des désavantages pour le fonctionnement chez les femmes. Et donc, on va parler des gènes qui sont impliqués dans les maladies auto-immunes. Mais je voulais donc revenir un tout petit peu sur la fin de mon cours la semaine dernière pour vous parler des gènes qui sont impliqués dans les déficiences intellectuelles. Il y en a beaucoup sur le chromosome X. Je vous avais montré ça. Donc, pourquoi il y a autant sur le chromosome X, autant de gènes qui semblent être exprimés dans le cerveau et qui, quand ils sont mutés, ont un effet sur les fonctions cognitives. Donc ça, c'est un mystère, mais qui suscite beaucoup d'intérêt. Je vous avais parlé la semaine dernière de tout le débat autour des gènes de l'intelligence. Est-ce que les gènes du X sont effectivement souvent les gènes de l'intelligence? Et j'espère que vous avez compris qu'il faut prendre ça un tout petit peu avec des pincettes. Et puis, je vous avais aussi dit qu'effectivement, le dose peut avoir un impact. Pas du tout de cette protéine, de certaines de ces protéines peut avoir un impact très, très néfaste chez les garçons, mais une double dose aussi peut avoir un effet néfaste. Et l'exemple d'MECP2, mais aussi d'autres gènes. Et donc, est-ce qu'il y a un avantage sélectif pour ces fonctions dans le cerveau chez les mâles et les femelles? Peut-être, effectivement, au cours de l'évolution, il y a une sélection naturelle, une sélection sexuelle, peut-être justement, pour certains comportements qui sont liés à la reproduction. On a parlé de Darwin souvent dans ses cours, et là, c'est clair que s'il y a un avantage dans le fonction de certains de ces gènes, dans la manière que soit un mâle, soit une femelle va se comporter, on peut imaginer qu'il y aura une sélection très, très efficace ou très puissante pour que ce gène reste fonctionnel sur le chromosome X. Donc, il y a des particularités. Donc, si vous voulez... Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous pouvez voir plus online sur le cours. Mais donc, aujourd'hui, je voulais revenir un tout petit peu sur ces différences entre hommes-femmes, mâles-femelles. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant, déjà, mais qui suscite effectivement beaucoup d'hypothèses et d'intérêts. Et donc, il y a des chercheurs, des neurobiologistes et d'autres qui sont très intéressés par les différences qu'on voit dans le cerveau, que ce soit dans la forme, la taille, l'organisation aussi. Il y a des différences entre les mâles et les femelles, les hommes et les femmes. Et donc, il y a toute une, on va dire, une communauté de chercheurs qui sont intéressés par ces différences et leurs éventuelles implications. Et puis, il y a beaucoup d'autres chercheurs aussi qui trouvent que la manière que ces études sont faites n'est pas suffisamment rigoureuse et qu'il y a beaucoup de biais qui rentrent dans les discussions de ces recherches qui peuvent avoir un impact dans la manière que cette recherche peut être conduite. Donc, il y a une absence d'objectivité, on va dire. Donc, c'est un domaine dans lequel moi-même je ne suis pas, mais en lisant, je réalise à quel point ça suscite beaucoup de débats. Et donc, par exemple, Cahill, qui est un neuroscientifique qui travaille justement sur les différences entre les cerveaux mâles et femelles, a publié plusieurs papiers et aussi des papiers d'opinion et de revues sur le sujet. Et ça vient en fait de son site web. Donc, le fait que dans le cerveau, il y a effectivement des grandes différences, et en particulier, il y a certaines parties du cerveau, comme l'amygdale, je ne sais pas si on dit amygdale ou amygdala, mais en tout cas, qui est la région qui semble être très, très utilisée justement pour les émotions. Et donc, en fait, le constat qui a été fait en faisant maintenant avec des outils d'imagerie extrêmement sophistiqués, c'est que les hommes et les femmes n'utilisent pas le même côté de leur cerveau pour la manière qu'ils utilisent pour récupérer des souvenirs d'événements, on va dire, émotionnellement importants. Donc, en faisant des tests où des objets ou des souvenirs sont rappelés à des hommes et des femmes, on réalise que les réactions arrivent dans la même partie du cerveau, mais finalement, pour les hommes, c'est plutôt côté droite, et pour les femmes, c'est plutôt côté gauche. Alors, c'est quand même assez énorme comme différence. Donc, la raison pour ça, je pense, reste quand même assez inconnue. Et ici, je vous montre le type d'étude qui est faite, donc avec une imagerie pour détecter l'activité neuronale de manière très précise et très puissante. Donc, c'est quelque chose qui est fait maintenant presque de manière routinière, mais qui donne beaucoup, beaucoup d'informations fascinantes. Et donc, voilà, il y a effectivement des différences dans les parties du cerveau qui sont utilisées. Et la grande question maintenant, c'est à quel point ces différences d'activité et, dans le cerveau sont liées avec des différences de comportement. Et c'est là où c'est relativement rassurant d'un côté et étonnant de l'autre, c'est que finalement, pour beaucoup de comportements, les hommes et les femmes ont le même comportement tout en utilisant une partie différente du cerveau pour y arriver. Alors, il y a même des termes qui sont utilisés pour ça, la compensation ou la convergence, et qui a été proposée en fait par un Hollandais, un neuroscientifique hollandais De Vries, qui a remarqué que dans des campagnols, c'est ça, Bowles, j'ai regardé avant, campagnols, les mâles et les femelles, après, donc en fait, c'est dans des campagnols particuliers qui restent monogames, et où le père s'occupe aussi des petits. Et donc, les mères, en fait, après avoir mis bas, il y a un déclenchement de toute une cascade qui est déclenchée par, justement, la grossesse et d'avoir mis bas, et qui implique des hormones comme l'oxytocine. Mais les mâles, en fait, ils ont une partie du cerveau qui utilisait la vasopressine, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus important chez les mâles que chez les femelles. Et en fait, avec des études, et là je vous fais un résumé très, très bref, et comme vous voyez, je ne suis pas du tout experte hein, dans ce domaine, mais De Vries a vraiment décortiqué ce processus. Il a montré que, puisque les mâles n'ont pas ce déclenchement hormonal qu'ont les femelles quand elles mettent bas, mais ils doivent avoir le même comportement que les femelles pour s'occuper des petits, c'est-à-dire les ramasser, les mettre... Hein, et donc, en fait, ils ont évolué une nouvelle manière de faire avec une autre partie de leur cerveau. Donc ça vous montre de manière très dramatique, même comportement, mais deux parties du cerveau différentes et deux voies complètement différentes. Donc voilà, ça c'est le processus de compensation. Et donc c'est pour ça que toute... l'excitation qui est liée avec l'imagerie qui peut montrer donc différentes parties du cerveau sans montrer un dimorphisme sexuel doivent être quand même prises en compte par rapport à l'output, enfin le comportement les fonctions qui vont avec, qui peuvent en fait finalement être assez similaires. Parce qu'au cours de l'évolution, il faut compenser. Pour, par exemple, effectivement, ce type de comportement, c'est pour la survie de cette espèce, il fallait bien que les mâles trouvent un moyen d'avoir le même comportement que les femelles. Voilà, donc juste pour continuer sur l'intérêt quand même dans ce domaine, je vous avais montré ça très rapidement la semaine dernière, mais c'est ici pour vous montrer que malgré cette compensation, il y a quand même des grandes différences dans les maladies neurologiques. Et le défi, c'est que ces différences qu'on trouve, donc, par exemple, qui sont plus fréquentes chez les femmes et ou plus fréquentes chez les hommes, sont peut-être liées au chromosome sexuel et en particulier les gènes liés à l'X. Comme je vous avais dit, il y a beaucoup de gènes qui, quand ils sont mutés, donnent des retards mentaux. Et donc, ça, c'est des phénomènes développementaux. On les voit apparaître très tôt. Donc, effectivement, les garçons sont beaucoup plus souvent touchés par l'autisme. Mais on voit aussi que certaines maladies, comme la schizophrénie, se manifestent différemment entre les hommes et les femmes au cours de leur vie chez les garçons. Chez les garçons, c'est la schizophrénie à très bas âge qui semble apparaître, alors que chez les femmes, c'est un peu plus tard que la maladie peut apparaître. Et puis aussi, pour tout ce qui est addiction, drogue, alcool, etc., on parle des différences sexuelles. Mais le point clé ici, c'est que ça peut être une différence au niveau des gènes liés à l'X. Ça peut aussi être des différences liées aux chromosomes sexuels et qui sont hormonales. Ça peut aussi être lié au genre. Et bien sûr, le genre n'est pas le sexe biologique, mais quelque chose de beaucoup plus culturel. Les habitudes, les manières que les hommes et les femmes se comportent et la société les accompagne peuvent avoir un impact extrêmement important sur ce type de camembert et les raisons pour lesquelles, par exemple, les femmes semblent être beaucoup plus susceptibles à l'anxiété. Est-ce que c'est lié au gène, double gène du X? Est-ce que c'est lié aux hormones ou est-ce que c'est lié à leur place dans la société? Et là, c'est même pas drôle, c'est une vérité qu'effectivement, les jeunes filles qui, on va parler un petit peu du syndrome de Turner. Quand on prend des personnes qui ont des chromosomes sexuels surnuméraires, en fait, on réalise qu'effectivement, souvent, les filles vont se comporter d'une certaine manière parce qu'elles ont tendance à être beaucoup plus timides, donc timorées face aux médecins, etc. Donc, il y a tellement de variables, c'est très difficile de distinguer, surtout chez l'humain, et il faut être très... précautionneux dans les interprétations des origines de ces maladies, tout en sachant qu'il faut effectivement essayer de comprendre plus en étudiant tous les niveaux. Mais pour revenir au chromosome X, parce que c'est quand même le sujet du cours, à quel point on peut lier certaines de ces différences au chromosome X et au gène lié à l'X en regardant des anomalies, des aneuploïdies, quand on a un nombre de chromosomes qui n'est pas correct. Donc, j'espère que vous vous rappelez du tout premier cours que je vous avais fait cette année où on a parlé justement de l'importance d'avoir le bon nombre de chromosomes. Et les chromosomes sexuels sont quasiment les seuls où c'est tolérable d'avoir des aneuploïdies. Pour les autres chromosomes, la plupart, sont néfastes très tôt au cours du développement, sauf pour le chromosome 21, mais qui donne lieu au syndrome de Down. Et c'est le plus petit chromosome humain où une copie supplémentaire donne le syndrome de Down. Mais au niveau des chromosomes sexuels, on peut avoir des individus qui ont un seul X, pas deux. Ça, c'est le syndrome de Turner. On peut avoir des individus qui ont deux X et un Y. Ça, c'est le syndrome de Klinefelter. Donc, c'est des hommes parce qu'ils ont un chromosome Y. Les Turner sont des femmes parce qu'elles n'ont pas le chromosome Y. Je fais très, très simple. Bien sûr, on peut avoir, et vous allez voir, on a même des modèles murins qui essaient de récapituler. On peut avoir une femelle qui n'a pas d'Y, mais qui a le gène SRY sur un autre chromosome. Mais en tout cas, dans la situation normal, c'est la présence du Y qui apporte le côté masculin. Et puis, les trisomies X existent aussi. Et là, dans le cas des triples X, deux des chromosomes X sont inactivés, un seul reste actif. Et chez les Klinefelter, les hommes, ils ont un X qui est inactivé. Donc, l'inactivation du X, c'est compensation de dose, comme je vous avais expliqué déjà, arrive de manière indépendamment de la détermination sexuelle. C'est le nombre de chromosomes X qui compte. Si on a plus qu'un, on va inactiver tous les autres. Mais néanmoins, les femmes qui ont le syndrome de Turner ont quand même des symptômes. Et alors, je vais revenir sur les symptômes, mais pourquoi ? L'idée, c'est que ça peut être dû au fait qu'elles manquent une double dose de certains gènes, c'est justement ces gènes qui échappent à l'inactivation. Mais ça peut aussi être hormonal, parce que les femmes qui ont le syndrome de Turner, en fait, les fonctions ovariennes ne sont pas normales, et donc il y a des problèmes hormonaux aussi. Donc c'est quelque chose qui est difficilement distinguable. Les femmes qui ont trois chromosomes X, donc deux X inactifs et un X actif, sont quasiment normales. La plupart de ces femmes ne présentent pas... en clinique, on ne sait pas qu'elles ont 3X, mais il y a quand même un impact sur certains cas qui ont été étudiés, des différences intellectuelles. Dans les hommes Klinefelter, XXY, la plupart des cas aussi ne sont pas détectés. Deux tiers de ces hommes ne réalisent pas, ne savent pas qu'ils ont ce syndrome. Mais là aussi, il y a quand même un impact. Et donc, il y a des déficiences, on va dire, d'apprentissage qui sont quand même relativement mineures, mais qui peuvent être mesurées. Et donc, c'est en utilisant ces cas assez particuliers que les chercheurs essaient de comprendre si les gènes liés à l'X peuvent avoir un impact donc, dans les fonctions cognitives. C'était une des approches qui a été utilisée, mais aussi sur d'autres aspects de la physiologie humaine. Donc, c'est quelque chose qui est étudié de manière très intense par les généticiens qui travaillent chez l'humain et aussi chez la souris. Et ici, je vous montre les sortes les résultats des tests qui sont faits pour le QI. Pour les tests d'expression orale ou non orale, donc en fait, vous voyez les différentes situations. Les femmes XO où le QI est quand même relativement normal, mais elles ont des problèmes sociaux dans certains cas. Et de manière intéressante, ça pourrait être lié avec l'origine de l'X qu'elles portent, que ce soit le X du père ou l'X de la mère. Et il y a eu pas mal de débats autour de ça. Je ne vais pas parler plus de cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui reste un peu flou et controversé. Et puis ici, je vous montre toutes les autres situations où effectivement, surtout pour les mâles XX avec deux Y, là, il y a clairement un problème de déficience intellectuelle pas majeure, mais qui est présent. Et puis quand on regarde au niveau de l'autisme et aussi les syndromes d'hyperactivité, on voit qu'il y a des différences là aussi entre les syndromes de Turner, les personnes qui ont 2X et 1Y, ou 2Y et 1X, ou triple X, où là, il ne semble pas avoir un impact sur l'autisme, mais les XXY ont effectivement une fréquence d'autisme beaucoup plus élevée. Donc, avec toutes ces situations, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Donc ici, je voulais vous dire deux mots sur les syndromes de Turner et Klinefelter, qui sont les deux situations les plus souvent étudiées. Donc, comme vous voyez, pour les femmes qui ont le syndrome de Turner, les symptômes peuvent être plus ou moins importants. Et ça dépend aussi du degré de mosaïcisme, parce que très souvent, les femmes XO ne sont pas 100% XO. Il y a certaines cellules qui ont aussi un deuxième X ou un bout du chromosome X. Et donc, ça complique un peu la situation. Mais en tout cas, globalement, il y a des caractéristiques externes, on va dire, au niveau de la taille. Elles sont souvent 20 cm plus petites que la moyenne. Et puis d'autres aspects, elles sont stériles, effectivement. Mais au niveau de leur fonction cognitive, en fait, souvent, elles sont plus performantes quand elles sont jeunes, surtout pour tout ce qui est langage, phonologie, etc. Mais elles sont un peu moins performantes sur certaines fonctions comme l'apprentissage des nombres. Par contre, quand on regarde les mâles qui ont le syndrome de Klinefelter, là, c'est un petit peu l'opposé. Eux, ils ont des déficits au niveau verbal, mais ils ont une capacité visuo-spatiale qui semble normale. Donc, en fait, il y a les deux côtés entre ces individus qui ont un X de moins ou un X de trop avec un Y. Mais le problème dans tout ça, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est qu'effectivement, il y a quand même des différences hormonales entre ces individus. Donc, est-ce que c'est le nombre de X qui est important, ou est-ce que c'est le fait qu'ici, il y a deux X et puis un Y dans un contexte où il y a quand même du testostérone, même si ces individus ont la formation légère de seins et ils n'ont pas forcément le développement des génitaux tout à fait normal. Et chez ces femmes, comme je l'ai mentionné, il y a pas les ovaires ne sont pas fonctionnels et donc en fait il y a clairement des différences au niveau de leur situation hormonale. Donc, comment distinguer l'impact des hormones par rapport à l'impact des gènes liés à l'X? Et il faut dire que depuis des décennies, les chercheurs, les médecins, et puis j'imagine aussi les philosophes et les autres, pensaient que toutes les différences entre les sexes étaient vraiment liées aux hormones. Et ici, je vous rappelle les schémas que je vous avais montrés déjà, je pense, mais en tout cas, voilà, les individus qui n'ont pas SRY, que ce soit des XX ou les XXX, sont des femmes par défaut, forment des ovaires. Sauf que les individus XO n'arrivent pas à avoir une ovogenèse totalement normale parce qu'effectivement, elles n'ont qu'un seul chromosome X et il y a des gènes sur le X qui semblent être importants pour ces processus. Par contre, les individus qui ont un Y et donc SRY vont avoir la formation des testis et la production de testostérone. Bien sûr, il y a du testostérone qui peut être produit, qui est produit dans les deux cas. Mais en tout cas, c'est le testostérone qui va faire qu'on bloque la formation de différenciation sexuelle femelle et on va dans la voie masculine. Mais à quel point ces hormones impactent sur le cerveau? Donc, à quel point une femme XX a un cerveau qui est complètement féminisé et qui est donc typique d'une femme et idem pour un homme. Et donc c'est là où ça restait, je dirais, relativement flou. Ici, je vous montre au cours de l'âge, entre les mâles qui sont les petits carrés et les femelles qui sont les petits ronds, les dynamiques des hormones au cours du développement. Au cours de la vie. Et j'espère que vous voyez, c'est extrêmement dynamique. Donc, à un très bas âge, il y a une sorte de pseudo-puberté, on appelle ça, où il y a le testostérone chez les garçons et l'estradiol chez les filles qui apparaît et qui ensuite baisse. Et c'est qu'au moment de la puberté où là, on voit les deux hormones très différentes entre les garçons et les filles au cours de la vie, et c'est après le ménopause où effectivement les femmes ont cette baisse d'œstrogène au cours de la vie. Donc en fait, c'est très dynamique, c'est très différent, et c'est que maintenant, où les études moléculaires peuvent vraiment regarder l'impact des hormones sur le cerveau. Et donc, en fait, voilà, ça c'était la théorie classique, c'est que le testostérone fait un cerveau masculin et l'absence de testostérone fait un cerveau féminin. C'est pas tout à fait aussi simple. J'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais en tout cas, en utilisant surtout chez la souris, elle aura les études maintenant moléculaires, on peut regarder. Où est-ce que les hormones agissent dans le cerveau et quels sont les gènes qui sont déclenchés de manière différentielle. Et on commence à avoir vraiment une idée beaucoup plus précise des cibles des hormones dans le cerveau et les comportements qu'ils peuvent produire. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit des différences de comportement. Est-ce que c'est lié au nombre de X ou au nombre de Y, etc. Mais on voit que juste les hormones peuvent avoir un impact sur la manière que le comportement sexuel, l'agressivité maternelle, le comportement de reproduction des mâles, etc. Donc on commence à comprendre tout ça et on voit que les hormones sont très différents, l'impact des hormones est très, très important, mais il y a aussi une réalisation qu'il y a un impact des chromosomes sexuels qui est très important aussi sur la manière que le comportement et d'autres aspects physiologiques des individus peut arriver. Mais comment distinguer ? Et c'est là où la génétique de la souris a vraiment apporté des réponses importantes, parce qu'il y a deux modèles que les chercheurs utilisent chez la souris qui permettent de créer des femelles XX ou XY et des mâles XX ou XY. Comment ils font ? Donc ici, c'est pour vous montrer. Donc ça s'appelle le four core genotypes. Je vais vous montrer comment ils font exactement, mais effectivement, on peut avoir soit une femelle XX avec des ovaires normales, soit on peut avoir un mâle qui a deux X, mais qui n'a pas d'Y, mais qui est un mâle avec des testicules, etc. Et au contraire, on peut former maintenant une femelle avec un X et un Y qui a des ovaires, et puis un mâle XY comme attendu avec des testicules. Et comment les chercheurs ont fait ça ? Donc regardez juste cette partie-là pour le moment. En fait, c'est en utilisant une souris qui a une délétion pour SRY, ce fameux gène qui déclenche toute la différenciation des voies sexuelles masculines. Et donc, ce chromosome Y que vous voyez ici, il est délété pour SRY. Mais on peut mettre le gène SRY sur un autosome. Et donc ici, dans ce cas particulier, il y a un X, il y a un Y, mais qui n'a pas SRY, et il y a SRY sous le chromosome 3. Donc cette souris, elle est quand même mâle. Son Y est délété pour SRY, mais il y a SRY ailleurs, donc il y a développement des testis. On peut aussi avoir, donc ici, la même chose, mais sauf sans le transgène SRY sur le chromosome 3. Et donc là, c'est un XY, mais qui développe des ovaires, femelle par défaut. Donc ça, c'est une femelle XY. Et ensuite, on peut aussi avoir des individus XX, on va commencer avec le plus simple, ça, c'est une femelle normale, XX avec deux chromosomes 3 normaux. Et puis ici, c'est une femelle XX avec le gène XY sous le chromosome 3. Donc là, on a une femelle XX, mais qui est un mâle au niveau de sa différenciation sexuelle, donc qui a des testis. Donc ça, c'est un cas, un ensemble de souris qui peuvent être utilisées pour distinguer les effets des hormones et des chromosomes sexuels. Et puis ici, c'est l'autre situation. Ici, il s'agit d'un autre modèle où il y a un chromosome Y qui est délété, sauf pour la région pseudo-autosomale. Ça, c'est très important aussi, ce modèle, parce qu'en fait, ça veut dire la partie qui est semblable entre le X et l'Y, elle est gardée, mais le reste du Y est absent, y compris SRY. Et donc là, parce qu'il n'y a pas SRY, cet individu, il est XY, mais sont la plupart du Y que la région pseudo-autosomale qui reste, et donc c'est une femelle avec des ovaires. Et ici, vous avez l'autre situation qui est qui est un individu avec deux X, mais qui a le chromosome Y collé sur un des deux X. Donc là, c'est un individu XX, mais avec des testis parce que le Y est présent aussi. Donc voilà, je vous montre ça. J'espère que ce n'est pas trop confus, mais ça vous montre qu'on peut tout faire, en tout cas chez la souris. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? Et c'est que ces modèles ne sont pas aussi utilisés qu'ils auraient pu l'être. Je pense qu'ils sont activement utilisés maintenant parce qu'on peut vraiment aller regarder au niveau des différentes, plusieurs aspects de la physiologie et du comportement. Et moléculairement, on peut étudier l'impact d'avoir deux chromosomes X ou d'avoir un X et un Y, mais chez une femelle, etc. Et donc, dans un papier qui a été publié par Richard Festenstein, ils ont montré qu'il y a énormément de différences entre les individus qui ont deux X ou un X au niveau de leur expression génique, et pas seulement au niveau du chromosome X, mais aussi partout dans le génome. Donc, il y a des gènes qui sont affectés par le nombre de chromosomes X qui sont présents. Et ils ont aussi montré que la présence des séries Y peut avoir un impact aussi sur les gènes sur les autosomes. Et en particulier, maintenant on commence à réaliser que la protéine SRY, on pensait être juste utilisée pour la différenciation dans la lignée germinale chez les mâles, en fait, on voit que cette protéine peut aussi être exprimée dans le cerveau et peut-être à des cibles aussi dans le cerveau. Et donc, en fait, c'est un facteur qui peut réguler les gènes, peut-être en dehors de juste la lignée germinale. Mais sans avoir ce type de modèle, où on peut vraiment distinguer les impacts du X, du Y, de SRY et des hormones, on n'aurait pas pu voir ça. Donc, on peut commencer à comprendre vraiment la nature du dimorphisme sexuel et ses origines au niveau des chromosomes sexuels. Et donc, je vais vous faire juste un résumé alors, de ce qui a été trouvé au niveau du comportement. En fait, encore plus intéressant que des études sur le comportement, il y a beaucoup d'études maintenant sur, par exemple, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, où on peut vraiment voir à quoi sont dues les différences entre les sexes. Mais en tout cas, au niveau du comportement, on voit très clairement que les individus qui ont un seul X sont plus anxieuses, ont une tendance à avoir une réaction furtive beaucoup plus importante. Je ne connais pas tous les mots exacts de ces tests de comportement, mais il y a aussi des tests sur le comportement sexuel et les comportements sociaux, tout ça avec des souris dans les cages, avec différents types de scénarios. Par exemple, c'est clair que les mâles qui ont plusieurs chromosomes X ont un comportement différent au niveau de leur comportement sexuel. Donc ça, c'est très intéressant, pas quelque chose qui était forcément attendu. Et au niveau des fonctions ou du comportement social, on voit que les individus XO ont un comportement social qui est assez différent. Et ça colle pas mal avec ce qui était connu avec le syndrome de Turner, où effectivement, ces souris ont une tendance à aller regarder, renifler leurs voisines dans une cage beaucoup plus fréquemment, mais en fait, elles les fuient et elles n'aiment pas trop interagir. Donc après, pour ces tests de comportement, moi, je ne suis pas une experte pour juger vraiment la qualité, mais il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs maintenant qui commencent à faire ce type d'analyse en utilisant ces modèles, et c'est des modèles extrêmement puissants. Donc, voilà, on commence à avoir une idée, finalement, de l'impact des gènes du X ou du Y sur les fonctions de comportement, et aussi distinguer ça des effets hormonaux. Hormonaux, merci. Donc, voilà, pour résumer cette partie-là, donc même si les hormones ont quand même bien dominé les études sur les différences sexuelles depuis plusieurs décennies maintenant, on commence à réaliser qu'effectivement, il s'agit aussi d'un impact du nombre de chromosomes X et ou Y dans des tissus en dehors des gonades qui peuvent aussi avoir une importance. Et en particulier le X, parce qu'il y a tellement de gènes, et il y en a beaucoup en particulier qui sont exprimés dans le cerveau, semble avoir un rôle important, mais je vous avais aussi dit que SRY, qui est sur le Y, pourrait aussi avoir un rôle dans le cerveau. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas encore quels gènes exactement sont responsables. D'un côté, nous savons quels sont les gènes impliqués dans les maladies de déficience intellectuelle, mais nous ne savons pas si ces différences qu'on voit de comportement qui sont liées à l'X, ce sont les mêmes gènes. Donc ça, c'est là où les deux mondes de recherche doivent se réunir maintenant. Et un autre point qui commence à être de plus en plus intéressant, c'est ces fameux gènes qui échappent à l'inactivation. Donc des individus qui ont 2X, pourquoi il y a une différence, par exemple, dans les mâles XXY, en dehors de la présence de SRY et le chromosome Y? En fait, peut-être, justement, c'est le nombre ou le niveau d'expression des gènes à partir des X qui peut avoir un impact aussi sur les différences au niveau des capacités intellectuelles ou sur le comportement. Donc ça, c'est les gènes qui échappent deviennent de plus en plus intéressants. Et comme vous allez voir, c'est des gènes qui sont très souvent impliqués dans la chromatine. Là, c'est juste pour vous dire que les gènes qui sont sous le X, qui échappent, mais qui ont quand même une copie sous le Y, très souvent, je pense que je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, très souvent, la copie sous le X a quand même un niveau d'expression et un profil d'expression qui est assez différent. Donc, en fait, elles divergent quand même entre ces deux chromosomes, même si les paralogues sont présents. Et donc, un point que je réitère ici, pour tout ce qui est comportement, c'est que ces phénomènes qui peuvent biaiser moléculairement certaines choses, en fait, on pense qu'il y a ce phénomène de compensation et que très souvent, ces différences, on va dire, sexuelles, sont là pour baisser ou diminuer l'impact du dimorphisme sexuel. Et donc ça, je pense que c'est très important à garder en tête parce que cette perspective n'est pas forcément prise en compte quand les chercheurs définissent les expériences qu'ils font. Il y a quand même un certain biais pour dire, ben voilà, est-ce que effectivement le comportement d'agressivité est vraiment augmenté chez le mâle, chez la femelle? Mais en fait, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de comportements qui doivent être assez similaires entre les sexes, et donc ces différences d'expression génique au niveau des chromosomes sexuels et même des voies moléculaires qui sont utilisées peuvent être là justement pour permettre cette compensation. Mais ça, c'est quelque chose qui vraiment doit être maintenant mieux étudié. Et donc, certains chercheurs parlent du sexome. Donc, en fait, c'est l'ensemble des facteurs qui peuvent avoir un biais sexuel sur les régulations des gènes et les réseaux de régulation. Et tout ça, ça doit être intégré, bien sûr, dans un contexte où on prend en compte aussi les changements hormonaux et environnementaux. Et donc, j'ai mentionné les gènes qui échappent à l'inactivation. Ici, je vous montre quelques exemples. On a parlé de MSCP2 la semaine dernière et je voulais quand même souligner qu'il y a beaucoup de gènes sur le X qui sont inactivés dans certains tissus, mais qui sont réactivés, et en particulier, on les trouve réactivés dans le cerveau et qui sont impliqués dans la chromatine. Donc, d'où l'intérêt d'un éventuel impact beaucoup plus important dans le génome que juste au niveau du chromosome X. Donc, ces gènes qui échappent à l'inactivation pourraient avoir un impact beaucoup plus vaste sur le cerveau, sur les fonctions du cerveau. Et ça, c'est quelque chose que les gens commencent juste maintenant à étudier. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Et juste pour terminer sur cet aspect-là, donc les hormones versus les chromosomes sexuels, effectivement, il y a des différences importantes au niveau du cerveau, je pense que vous avez compris ça maintenant, et que ces différences peuvent être liées aux hormones, aux chromosomes sexuels, mais aussi à l'expérience, l'environnement, etc. Et donc, en fait, les expectations culturelles et sociétales peuvent avoir une influence très importante sur le comportement et les fonctions du cerveau. Et le point que je voulais souligner, c'est que puisque c'est le cerveau et puisque c'est nous, c'est l'homme, l'humain, on est fasciné par nous-mêmes et par nos comportements. Et il faut faire très attention, je trouve, au niveau des journalistes et les médias qui parlent des différences entre les sexes. J'étais dans un débat il y a quelques semaines à la Sorbonne pour France Culture où c'était les deux sexes face à l'évolution. Et bon, j'ai trouvé ça très dur, j'avoue, parce que finalement, on n'est pas si différents. Mais il y a quand même des différences. Il faut faire très attention quand on parle, en tout cas, de la science, des scientifiques, de comment il faut définir ce qu'on doit mesurer, comment et comment l'interpréter. Et le cerveau, plus que tout autre organe, semble susciter beaucoup de fantaisie, on va dire. Voilà. Donc, je reviens à mes... au sujet du cours, qui est quand même maintenant les maladies auto-immunes. Je commence en vous parlant des biais dans les maladies chez l'humain qu'on trouve de plus en plus entre les hommes et les femmes. Donc, je viens de vous dire qu'on est tous si semblables, mais on est quand même biologiquement différents. C'est incontestable au niveau de notre physiologie et au niveau des maladies auxquelles nous sommes susceptibles. Ici, je vous montre les différences mâles-femelles pour les maladies cardiovasculaires avec l'âge. Donc, au début, c'est surtout les hommes qui ont une fréquence plus importante de problèmes, mais les femmes, en fait, dépassent les hommes après le ménopause. L'asthme, c'est pareil, il y a une dynamique au cours de la vie qui est quand même assez différente. Très jeune, c'est les garçons qui sont plus affectés, plus tard, c'est les femmes. Et pour les maladies auto-immunes, c'est là où c'est absolument... impressionnant, la fréquence de certaines maladies auto-immunes qu'on trouve chez les femmes. Donc ici, c'est le pourcentage des femmes affectées. Vous voyez, pour certaines maladies, c'est presque 100% chez les femmes qu'on trouve ces différences. Alors, donc ici, je résume en mots et en schéma ce que je viens de vous dire, que c'est différent au cours de l'âge, hein, que ce soit in utero, avant la puberté, pendant l'âge de reproduction ou à l'âge plus avancé, il y a des différences pour différentes maladies. Le cancer aussi, différents types de cancers affectent les hommes et les femmes différemment, et les maladies auto-immunes de manière très flagrante. Et on a déjà parlé des maladies neurologiques. Et donc, je voulais souligner qu'avec les modèles murins dont je vous avais parlé, mais aussi maintenant, chez l'humain, maintenant qu'on peut regarder tout le transcriptome entre individus, et je vous avais parlé de ce papier magnifique qui est sorti la semaine dernière, je vous avais parlé de ce papier magnifique, où on voit les différences d'expression des gènes au niveau du X, mais aussi au niveau d'autres chromosomes, et on voit qu'il y a jusqu'à 6000 gènes des 23 000 en total chez l'humain, qui sont exprimés de manière différentielle entre les hommes et les femmes. Et ça, ça peut être dû aux hormones et aux gènes qui sont sous le X et le Y. Mais je voulais souligner ici, je reviens sur ça à la fin du cours, que la plupart des essais cliniques sont faits que sur les hommes. Et... alors, on reviendra sur ça, mais je pense que c'est un point qui est extrêmement important et qui est en train d'être, on va dire, révisité activement. En tout cas, pour les maladies auto-immunes et pour tout ce qui est système immunitaire, donc les maladies infectieuses aussi, on voit qu'il y a des grandes différences. Donc, comme je l'ai dit, les maladies auto-immunes sont très fréquentes chez les femmes, beaucoup moins fréquentes chez les hommes. Par contre, certaines maladies infectieuses sont beaucoup plus fréquentes chez les hommes, moins chez les femmes. Donc, il y a des grandes différences entre les femmes et les hommes pour tout ce qui est lié au système immunitaire et aussi pour les cancers. Et ici, je vous montre de manière plus claire les différentes maladies auto-immunes et la proportion des femmes affectées versus les hommes en moyenne. Et vous voyez, comme je l'ai dit, il y a certaines maladies qui sont quasiment 90% que chez les femmes. Et on va parler plus particulièrement de deux de ces syndromes, le lupus et le syndrome de Sjögren. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, donc on va l'appeler le syndrome SS après. Et donc, bien sûr, le fait d'avoir deux copies des chromosomes X peut être prédisposé à ces maladies auto-immunes. Donc, ici, c'est les 25 Parmi les 80 maladies auto-immunes qui sont connues, ici sont montrées les 25 où il y a le biais chez les femmes. Et le lupus que j'ai mentionné, c'est 80% des cas sont des femmes. Mais il y a d'autres maladies comme la sclérose en plaques, la maladie de Graves et puis l'arthrite rhumatoïde. Donc, quelle est la base de ces différences? On revient sur les mêmes questions que pour les maladies neurologiques. Est-ce que c'est au niveau de certaines fonctions intrinsèques? Donc, les différences dans la réponse immunitaire peuvent sous-tendre ces maladies auto-immunes. Ça peut être aussi des facteurs liés à la reproduction, mâle-femelle. Donc, ça peut aussi être un point important. Et en particulier chez les femmes, la grossesse peut avoir un impact. Les facteurs externes, l'environnement peut bien sûr avoir un impact sur la susceptibilité des maladies auto-immunes. Et donc, il y a un vrai besoin de vraiment étudier ces maladies de manière très précise, comme pour les maladies neurologiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, c'est les ratios qui sont montrés encore, mais je vous donne la définition de ces maladies auto-immunes en 1963. Donc c'est les maladies, c'est une gamme de maladies où la réponse immunitaire aux antigènes, auto-antigènes, détruit différentes parties du corps, différents tissus, ou entraîne le dysfonctionnement. Donc, c'est des maladies qui peuvent être légères ou très graves et qui peuvent varier beaucoup avec l'âge. Et ici, je vous montre de manière très résumée des différents facteurs. On a parlé de l'environnement, on a parlé des fonctions reproductives, bien sûr, la puberté qui est différente entre les garçons et les filles, la grossesse, le microchimérisme où, en fait, le fœtus, les cellules d'un fœtus chez la mère peuvent avoir un impact sur le développement de maladies auto-immunes. Mais en fait, là, on devrait plutôt parler de maladies allo-immunes parce que ce n'est pas les cellules de la mère, c'est les cellules du fœtus. Mais souvent, ils sont groupés dans le même contexte. Bien sûr, les hormones ont un impact, on le sait, très important sur certaines de ces maladies. La réponse immunitaire et puis, bien sûr, la génétique et les chromosomes sexuels. Et c'est de ça surtout que je voulais vous parler maintenant. Donc ici, ça résume un peu ce que je viens de dire, c'est que c'est une combinaison d'impact environnemental et de composants génétiques qui semble donner lieu à ces maladies. Donc même s'il y a une prédisposition chez des familles, on peut avoir des cas extrêmement variés d'affectation entre les individus. Et je vous avais parlé effectivement de l'impact des hormones, etc. Donc, les deux cas dont je vais vous parler aujourd'hui sont le lupus et ce syndrome de Sjögren. Et donc, ici, je vous remontre le fait que ça soit probablement une maladie liée à l'X. En fait, non, je vous montre ça pour la première fois, en fait. Parce qu'en fait, les chercheurs ont regardé les individus qui présentent avec triple X ou les Klinefelter qui sont XXY. Et donc, en fait, les personnes XXX ont deux à trois fois plus de possibilités d'avoir ces maladies auto-immunes par rapport aux femmes qui sont normales XX. Et donc, en fait, ici, dans les deux cas, les femmes XXX ou les femmes XX, le développement sexuel et les hormones est tout à fait normal. Donc, ça suggère que ce n'est pas hormonal, que ce n'est pas l'impact des hormones qui prédispose à ces deux maladies auto-immunes. Donc, c'est quelque chose qui a attiré l'attention intensive des scientifiques. Ici, je voulais quand même vous montrer de quoi il s'agit. Donc, cette maladie, je pense que vous avez tous entendu parler. Donc, on appelle ça le lupus et qui est associé avec très souvent des éruptions cutanées, des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau des reins, des problèmes aussi neurologiques. Et au niveau du sang. Donc, en fait, c'est tout un tas de symptômes qui peuvent apparaître au cours de la vie de ces femmes et qui peuvent être plus ou moins gérés, traités de manière symptomatique, mais pas au niveau de la base de cette maladie. Et puis ici, c'est l'autre syndrome dont je vous avais parlé. Et là, c'est d'autres symptômes tout à fait. C'est au niveau de la peau, des yeux, il y a une sécheresse généralisée et ça a un impact sur la vision, des toux chroniques, un impact aussi sur les bras, les jambes et les problèmes de thyroïde. Donc là aussi, la cause n'était pas connue, mais semble avoir quand même un composant génétique puisque c'est vraiment lié au nombre de chromosomes X, il semblerait, mais aussi un phénomène environnemental parce que c'est souvent déclenché après un virus ou une infection bactérienne. Donc, l'idée des études que je vais vous présenter, c'est d'essayer de comprendre vraiment pourquoi ces phénomènes se déclenchent chez les femmes et voir comment pouvoir développer des traitements appropriés. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses. Je n'ai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails de tout, mais je veux quand même vous les montrer. Après, vous pouvez les étudier chez vous de manière détaillée. Il y avait une première hypothèse que pourquoi les femmes et pas les hommes? Pourquoi les XX ont ce problème? C'est peut-être parce que l'inactivation du X, comme je l'ai dit, aléatoire, mais pas toujours. Et si, au moment où... et donc, en fait, l'idée, c'est que notre système immunitaire a évolué pour justement nous défendre contre l'impact des pathogènes, etc. Mais parfois peut se retourner contre nous. Et retourner contre nous quand il y a une protéine, une molécule qui n'est pas reconnue. Et l'inactivation du X peut cacher le X qui est inactivé peut produire des antigènes cachés, si vous voulez. Donc, en fait, pour m'expliquer mieux, c'est qu'il y a une activation du chromosome X qui peut être aléatoire, mais qui peut être un peu biaisée. Et c'est dans le thymus que, normalement, les cellules qui sont, comment dire ça, présentent l'antigène contre soi sont éliminées, justement pour ne pas déclencher une réaction immunitaire contre soi-même. Mais si il y a une minorité des cellules qui expriment un allèle, un chromosome X par rapport à l'autre, ça se peut qu'en fait, à un moment plus tardif, ce chromosome X qui est quand même présent va être reconnu comme étant étranger. Et donc, en fait, les cellules qui ont choisi l'autre chromosome X à exprimer vont être reconnues comme étant des cellules étrangères et donc vont déclencher une réaction auto-immune. Donc ça, c'est une hypothèse. En fait, il y a pour le moment de moins en moins de support pour cette hypothèse parce que dans des maladies comme le lupus, on ne voit pas un biais dans l'inactivation du X dans ces individus en particulier. Donc, les autres possibilités sont qu'il y a une haploinsuffisance, c'est-à-dire il y a des gènes sur le X qui doivent vraiment être en double copie pour déclencher ce processus d'auto-immunité. Ça semble pas très facile à imaginer, sauf si on imagine qu'effectivement, très rapidement, enfin, que dans les individus qui développent ces maladies, il y a beaucoup de cellules qui ont perdu un X. Et donc, il n'y a qu'un X présent et pas l'autre. Et qu'il y a des voies impliquées dans le système immunitaire qui ont besoin de deux X. Pour le moment, il n'y a pas énormément de soutien pour cette hypothèse. L'hypothèse qui est la plus soutenue actuellement, c'est l'hypothèse d'une réactivation partielle ou des gènes qui en fait sont exprimés à partir du X inactif. Et donc ici, vous avez déjà vu le schéma, inactivation du X aléatoire, donc population des cellules qui expriment soit un X soit un autre, et qu'il y a peut-être des gènes qui sont sur le X inactif qui se réexpriment ou qui échappent à l'inactivation, qui peuvent déclencher ces maladies auto-immunes. Alors pourquoi les chercheurs ont pensé à cette hypothèse? Donc là, je reviens sur les différents scénarios. Donc, les femelles normales, les Klinefelter XXY, les trisomiques XXX ou les syndromes de Turner XO. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, la gravité de ces maladies semble être liée au nombre de chromosomes X qui sont présents. Plus on a de X, plus on a une possibilité, une chance, enfin, la fréquence d'avoir ces maladies augmente. Donc, l'idée, c'est que peut-être c'est vraiment lié au nombre de X et les syndromes de Turner ont très rarement le lupus. Donc, avoir un seul X semble protéger contre ces maladies auto-immunes. Et donc, l'idée, c'est que peut-être le X a des gènes qui sont impliqués dans les fonctions immunitaires. Et ici, je vous montre le modèle que je vous avais montré tout à l'heure, ces modèles où on peut avoir des mâles qui sont XX ou des mâles XY ou des femelles qui sont XY et XX. Donc, c'est les mêmes modèles que pour les tests de comportement. Et ces modèles ont montré qu'effectivement, c'est vraiment le nombre de chromosomes X qui est le déclencheur de ces maladies. Et que ce n'est pas hormonal, on peut éliminer l'hypothèse des hormones au niveau du déclenchement. Donc, c'est le nombre de chromosomes X. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur le chromosome X qui pourrait être impliqué dans ces maladies? Et en effet, il y a beaucoup des gènes sous le X qui sont impliqués dans les maladies, qui sont impliqués dans les voies du système immunitaire. Je vous montre ici une sélection. Apparemment, c'est la densité la plus importante des gènes impliqués dans le système immunitaire se trouve sous le X par rapport aux autosomes. Et donc, la question, c'est est-ce que ces gènes doivent être régulés de manière correcte dans le système immunitaire et que dans des maladies auto-immunes, peut-être c'est ces gènes qui, justement, en copie surnuméraire ou en expression dérégulée, pourraient déclencher ces maladies. Et que ce changement d'expression de ces gènes pourrait, justement, être associé avec la gravité de cette maladie. Et donc, si on regarde ces gènes et comment ils sont exprimés dans des femelles en santé versus les femmes avec la maladie ou les hommes, parce qu'il y a quand même des hommes qui ont le lupus, il a été montré que, par exemple, pour ce gène ici, c'est des 40L, clairement, il y a une augmentation de l'expression de ce gène dans les femmes qui ont le lupus. Et le modèle peut-être le plus puissant qui a été utilisé, c'est un modèle qui s'appelle la souris IA, qui est un mâle et qui développe de manière très fréquente les symptômes de lupus. Et donc, en fait, en 2006, il a été montré que cette souris mâle, en fait, a une translocation d'une partie du chromosome X qui fait qu'un gène, TLR7, est présent sous le Y. Donc ces souris, c'est des mâles, mais elles ont ce gène en double copie. Et donc ces souris qui ont TLR7 sur le chromosome Y, 100% de ces souris vont développer le lupus. Donc tout de suite, ce gène est devenu un centre d'intérêt pour les chercheurs. Et je vous montre ici plusieurs papiers qui sont sortis. Je vais revenir brièvement sur certaines. Mais donc, en fait, les réponses immunitaires semblent être aggravées ou augmentées dans des souris qui sont soit qui ont une duplication de ce gène, soit cette translocation dont je vous avais parlé. Et même avec des transgènes où on peut avoir une dose encore plus importante, il a été montré qu'effectivement, ça a un impact très important sur les fonctions immunitaires. Alors, c'est quoi ce gène? Donc ici, j'ai plusieurs diapos qui sont un peu denses, mais c'était quand même pour vous montrer pourquoi ces gènes sont importants. Donc, en fait, c'est des récepteurs Toll-like qui sont impliqués, donc c'est les récepteurs immunitaires, et qui sont justement des protéines qui sont sur la surface, les membranes des cellules qui sont impliquées dans le système immunitaire, les leucocytes. Donc, c'est les cellules sentinelles, comme les cellules dendritiques ou les macrophages. Et donc, ça, c'est dans le système d'immunité inné, mais aussi dans le système adaptatif. Et donc, il y a plusieurs de ces gènes qui sont présents dans le génome. Et ces protéines sont utilisées justement pour la défense contre les pathogènes, et les microbes, que ce soit des bactéries ou des virus. Donc, ces gènes ont été appelés Toll-like receptors, après le gène Toll chez la drosophile qui a été identifié par Nusslein Volhat et qui ont une structure protéine semblable. Et donc, le système immunité inné est quelque chose qui est très conservé dans différents strata, les mouches drosophiles, même les plantes ont ce système d'immunité innée. Et ces facteurs semblent être impliqués dans ces processus. Et donc l'idée, c'est qu'elles sont là justement pour détecter la présence soit des protéines, les structures moléculaires qui apparaissent, soit issues des bactéries, ou soit des virus, que ce soit des ARN ou des ADN. Donc en fait, les ligands de ce type s'associent avec ces récepteurs et ça peut déclencher donc le processus immunitaire. Et donc, on les trouve en action au cours des infections, bien sûr, mais aussi elles sont utilisées pour des vaccinations. Donc, il y a, comme je l'ai dit, plusieurs TLR, et la TLR qui nous intéresse en particulier sur le X, il y en a deux, TLR7 et TLR8. Et toutes les deux, ces récepteurs semblent être plus impliqués dans la reconnaissance des virus et de l'ARN simple bras ou double bras des virus, des infections comme HIV, par exemple. La question qui s'est posée depuis pas mal de temps, c'est est-ce que ces récepteurs qui sont impliqués typiquement dans les réponses inflammatoires stéréotypées, est-ce qu'il pourrait aussi être impliqué dans les maladies auto-immunes où il y a une réaction inflammatoire assez chronique et généralisée? Et donc, en fait, il a été postulé et ensuite montré qu'effectivement, ces récepteurs peuvent aussi aller se lier à des ligands qui sont de soi. C'est des traces de molécules, que ce soit protéines, ADN ou ARN, ou des peptides, qui vient de l'hôte et qui sont l'issue en général, une mortalité cellulaire, donc débris cellulaire. Et donc, en fait, normalement, quand il y a une inflammation ou une infection, élimination des cellules nécrotiques, dégradation par des nucléases, tout ça est éliminé, mais dans certaines situations, il a été montré qu'effectivement, on peut avoir une accumulation de ces molécules, ces ligands, qui viennent de soi et qui peuvent être reconnus en particulier par CTLR, TLR7 ou TLR9, qui n'est pas sur le X. Et donc, au niveau de l'ARN et l'ADN, il semblerait que ce sont ces deux récepteurs-là qui sont importants. Donc, tout ça pour vous dire que, et je pense que je vais aller plus vite, tout ça pour vous dire qu'effectivement, TLR7, son fonction normale est de détecter l'ARN viral ou des rétrovirus endogènes, dont on en parlait l'année dernière, qui sont parfois réactivés dans des situations comme l'inflammation. Mais effectivement, le TLR7 peut aussi reconnaître des molécules qui sont issues des cellules qui ont été détruites, donc le débris apoptotique qui peut être donc reconnu et pris en charge par ces récepteurs dans les endosomes et ça peut déclencher une réaction immunitaire qui peut être plus ou moins régulée mais qui peut aller cibler des cellules saines dans le corps si ce n'est pas régulé. Et le mystère, en tout cas pour moi, dans tout ça, c'est que le dosage de TLR7 semble vraiment être important. Quand on a deux doses de TLR7, on commence à avoir une possible hyperactivation de ces voies et un déclenchement de l'interféron qui va déclencher donc les réactions auto-immunes. Donc tout ça pour vous dire que TLR7 semble être très impliqué dans les infections virales, mais aussi très impliqué dans les maladies auto-immunes et le niveau d'expression des TLR7 semble être clairement impliqué. Et donc ça c'est un des papiers que je vous avais cité où en fait ils ont joué avec les doses de TLR7, ils ont montré qu'un tout petit peu plus de TLR7 peut promouvoir les lymphocytes autoréactifs. Alors, avec une spécificité toujours pour les ARN, mais on ne sait pas de quel ARN il s'agit, mais en tout cas des ARN qui sont issus des cellules du hôte. Et puis, une augmentation encore plus importante de TLR7 peut avoir un impact fatal dans ces modèles murins et avec une dérégulation des cellules dendritiques très importante. Donc, ce type d'étude montre à quel point il faut réguler l'expression de TLR7 de manière correcte pour avoir un déclenchement qui est normal pour se défendre, mais pas trop important pour déclencher un système auto-immune. Et donc ici, c'est pour vous montrer que les chercheurs commencent à comprendre exactement quelles cellules sont impliquées, donc c'est les cellules folliculaires dendritiques, qui retiennent les auto-antigènes, le complément et les auto-anticorps, qui font que dans des systèmes auto-immunes, ils vont aller attaquer d'autres cellules avec ce bagage. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup de données qui suggéraient que ces gènes étaient impliqués dans les maladies auto-immunes et en particulier dans le lupus. Et il y a eu une étude qui est publiée cette année par une équipe en France qui montre qu'effectivement TLR7 échappe à l'inactivation du X dans les cellules immunitaires. Ici, je vous montre, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. Ils ont simplement pris des cellules, simples cellules, à partir de plusieurs femmes, soit des femmes XX, soit des hommes XY, ou soit des hommes XXY. Et ils ont regardé dans les cellules B et d'autres cellules, les lymphocytes, monocytes et des cellules dendritiques, quel est le niveau d'expression de TLR7 et à partir de quel allèle vient l'expression. Donc, ils ont utilisé une technique que je ne vais pas vous décrire, qui s'appelle CASP. En tout cas, ils ont pu regarder pour chaque allèle de TLR7, parce qu'il y a des polymorphismes chez l'humain, dans différents types cellulaires, cellules B, monocytes, etc., quel est l'allèle qui est exprimé? Est-ce que c'est l'allèle, on va dire, paternel, l'allèle maternel, ou est-ce que les deux allèles sont exprimés? J'espère que vous voyez ici, quand c'est un allèle ou l'autre, on voit en vert ou en bleu près de ces axes, et puis au milieu, on a toutes les cellules bialéliques. Et dans tout type cellulaire dans le système immunitaire, ils ont trouvé des cellules qui expriment les deux allèles en même temps. Donc, et ce pourcentage pouvait aller de quelques pourcents jusqu'à plus que 30%. Et quand ils ont regardé par fiche, ils ont aussi vu qu'effectivement, il y a une expression à partir du X inactif. Ici, je vous montre des cellules avec, où on détecte l'ARN d'Xist en vert et on détecte le gène TLR7 en rouge. Et vous voyez qu'au sein du chromosome X inactif, on voit l'expression de ce gène. Et puis ailleurs dans le noyau, on voit aussi l'expression sous le X actif. Donc là, c'est bien des cellules qui sont bialéliques. Et ils ont même montré que dans ces cellules qui expriment les deux allèles, il y a plus de protéines. Ils ont produit un anticorps contre la protéine TLR7 et comme ça, ils ont pu mesurer le niveau de protéines. Ils ont montré qu'effectivement, les femmes avaient plus de protéines TLR7 dans leurs cellules du système immunitaire que les hommes. Et ils ont regardé aussi les individus XXY, les Klinefelter, qui sont plus prédisposés aussi au lupus. Et ils ont trouvé la même chose, qu'effectivement, il y a une expression bialélique de TLR7. Donc effectivement, TLR7, c'est un gène qui échappe à l'inactivation. On trouve plus de TLR7 protéinées ARN chez les femmes et chez les hommes XXY. Et on trouve ça dans tous les types cellulaires regardés, dans les cellules B. Et ils ont trouvé aussi que l'augmentation de cette protéine est vraiment différente entre les leucocytes mâles et femelles. Et quand ils ont regardé en stimulant les lymphocytes pour voir in vitro quel est l'impact, ils voient qu'effectivement, il y a une surexpression de TLR7 qui a lieu aussi. Donc, ils ont vu qu'au sein de chaque individu, quand ils ont regardé les différents types cellulaires, ils avaient un niveau d'échappement qui était assez semblable. Entre individus, ça pouvait varier, mais au sein de l'individu, il y avait un taux d'échappement qui était assez stable. Mais ils n'ont pas regardé pour voir si, dans différents contextes, stress, âge, etc., on pouvait avoir une augmentation de cet échappement. Parce que même si c'est important, 20 ou 30%, c'est quand même pas 100%. Alors, qu'est-ce qui fait que ça déclenche effectivement cette maladie auto-immune? En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que clairement, ces récepteurs qui semblent être clairement liés à ces maladies auto-immunes. Maintenant, la question est pourquoi pourquoi ces gènes échappent à l'inactivation. Même dans les femmes normales, on voit qu'il y a un échappement. Pourquoi le faire alors que pour les hommes, il n'y a pas une deuxième copie, il n'y a pas besoin d'échapper. Et quand il y a une expression plus importante, ça a l'air d'être quelque chose qui peut être très, très nocif pour les femmes. Et donc, c'est là où je vais terminer, c'est que depuis quelques années, les chercheurs commencent à regarder dans le système hématopoïétique et aussi dans le système immunitaire pour voir quel est l'état de l'inactivation du X. Je vous avais dit depuis quelques temps qu'une fois inactivé, le X est stablement éteint, sauf dans la lignée germinale où il peut être reprogrammé, où il est reprogrammé. Mais alors, des études récentes d'une équipe aux États-Unis, Montserrat Anguera, mais aussi précédée par d'autres études par l'équipe d'Anton Wutz, avaient suggéré que peut-être le X inactif n'était peut-être pas aussi stablement maintenu au cours de la hématopoïèse ou au cours du développement du système immunitaire. Et donc, en fait, cette équipe a regardé à différents stades de l'hématopoïèse, donc les cellules souches et ensuite les cellules pro-B, pré-B, etc., jusqu'à la fin de la différenciation, pour étudier l'état du chromosome X inactif. Et tout d'abord, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, l'ARN existe, disparaît à partir du X inactif. On n'a plus une décoration du X inactif à ce stade ici, dans les cellules pro-B. Et cette disparition est maintenue jusqu'à très tard, mais ça réapparaît à la fin de la différenciation dans les plasma cells. Donc, en fait, il y a une perte de XIST et puis un regain de XIST plus tard. Au niveau des molécules de XIST, il est toujours là. Ils ont mesuré la quantité de l'ARN XIST en utilisant d'autres techniques que l'hybridation in situ. Et on voit que le gène est bien exprimé. Simplement, l'ARN ne décore pas le chromosome X comme il faut. Et ils ont regardé plus récemment quel est le degré d'enrichissement des marques épigénétiques comme la méthylation de la lysine 27 de l'histone H3, l'ubiquitination d'H2A, toutes ces marques dont je vous avais parlé il y a deux semaines. Et ils ont montré qu'effectivement, quand on perd XIST dans les cellules pro-B, on commence à perdre les marques épigénétiques aussi progressivement. C'est plus tard que la perte existe, donc dans les cellules pro-B, on a encore presque 100% des cellules qui sont marquées par H3K27 triméthyl, par exemple, mais petit à petit, vous voyez qu'effectivement, on baisse ce niveau pour que finalement le X inactif, il est assez dénudé de ces marques hétérochromatiques. Donc ça, c'était vraiment une grande surprise pour nous tous, hein. Mais finalement, quand on regarde la littérature, c'est intéressant de voir qu'effectivement, les lymphocytes qui sont quiescentes semblent avoir une chromatine facultative qui est décondensée. Donc, l'état général de la chromatine dans tout ce processus de tout le génome est très dynamique et change. Donc, cette perte de la localisation de XIST et changement au niveau des marques chromatiniens pourrait être juste une conséquence d'autres changements qui doivent avoir lieu pour que le programme hématopoétique et aussi du système immunitaire soit bien mis en place. Donc, c'est un peu symptomatique que le X inactif aussi, il perd un peu ses moyens. Mais la conséquence de ça, c'est que peut-être certains gènes qui sont soit normalement inactifs complètement ou soit qui échappent un peu, peuvent échapper beaucoup plus. Et donc, ça veut dire que peut-être chez les femmes, il y a un danger dans le système hématopoïétique et le système immunitaire d'avoir une surexpression de certains gènes sur le X, parce que c'est une conséquence d'un processus normal qui a lieu, mais qui fait qu'on a une double dose ou presque une double dose de certains gènes. Donc, peut-être cet échappement n'est pas régulé comme il faut. Alors, ça veut dire que c'est plutôt un phénomène, on va dire, néfaste. Il n'y a pas d'avantage d'avoir cet échappement, mais ça se peut aussi qu'à un autre moment, un échappement est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore étudié. Mais en tout cas, clairement, le double dose de TLR7 qu'on trouve, ou plus que double dose qu'on trouve chez des individus XX ou XXX ou XXY, etc., est lié à la mise en, à la, l'apparition des maladies auto-immunes. Et donc, tout ça pour vous dire qu'un oncologue du 14 mai, Montserrat Anguera, qui est la personne qui a fait ces études, va venir aussi nous parler de ces derniers résultats. En tout cas, mon message, mon dernier message par rapport à l'X inactif est qu'il est remarquablement dynamique au cours de la vie d'une femme, alors qu'on pensait que c'était un processus qui était que développemental et une fois mis en place figé. Mais clairement, il y a beaucoup plus de dynamique qu'on imaginait et beaucoup plus de plasticité dans certains lignages, même chez l'adulte. Et donc ça, je pense que ça va nous donner de quoi travailler pendant quelques années. Et donc, juste pour terminer, je suis à l'heure, c'est parfait. Alors, juste pour terminer, j'avais quand même un message important, j'ai mentionné ça tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de maladies où nous savons maintenant qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, de fréquence, etc. Donc, on vient de parler des maladies auto-immunes, on a parlé aussi des maladies neurologiques, ici je vous montre toute une liste qui n'est pas exhaustive, mais il y a beaucoup de différences effectivement entre les hommes et les femmes. Encore une fois, est-ce que c'est lié au sexe biologique qui est tout un tas de choses différentes au niveau de notre capacité de se reproduire, au niveau aussi de nos hormones et au niveau du nombre de chromosomes X que nous avons. Est-ce que c'est lié au genre, comme je l'ai dit, culturellement, socialement? Il y a des influences très importantes sur le comportement et la manière que les hommes et les femmes sont traités et se traitent. Bien sûr, ça peut influencer. Et donc, le message que je voulais émettre, et je ne suis pas... Enfin, c'est des scientifiques comme moi, c'est que quand on décide de lancer une étude, que ce soit chez l'humain ou chez des modèles animaux, il faut quand même prendre en compte qu'il y a cette variation entre les sexes et au sein de chaque sexe. Bien sûr, il y a aussi des variations, mais entre les sexes aussi. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui est mis en place au moment que les études sont faites. Et de manière assez incroyable, la plupart des études qui sont faites, par exemple, sur les maladies du système immunitaire, ne sont pas faites de cette façon-là et sont focalisées très souvent sur les hommes. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs... le pourquoi je vais venir, mais les conséquences de ça sont quand même importantes. Par exemple, au niveau des médicaments que nous prenons, certains de nous et plusieurs d'entre nous prenons, il y a beaucoup qui ont un impact différent au niveau des hommes et des femmes. Donc, parmi les 10 médicaments qui ont été retirés du marché américain entre 1997 et 2000, 8 de ces médicaments avaient un effet grave justement sur les femmes. Ces médicaments avaient un effet néfaste justement sur les femmes. Donc le coût au niveau de humain, déjà au niveau de la santé et financier de retirer des médicaments du marché est énorme. Et ça sera beaucoup plus efficace si on prenait en compte l'impact du sexe biologique et du genre quand on fait les tests, les essais cliniques sur les drogues et le développement des molécules pour les hommes et les femmes. Et donc, pourquoi la recherche s'est focalisée plus sur les mâles? Alors, c'était un des points, c'est que finalement, on n'est pas si différent que ça. Donc, on peut prendre également mâle, femelle. Ça n'a pas un impact sur la réaction des médicaments ou sur l'interprétation des résultats. J'espère que je vous avais convaincu que ce n'est clairement pas le cas. Le nombre de X compte beaucoup dans certaines choses. L'autre point qui a été mis en avant, c'est que les fluctuations hormonales des femmes sont quand même embêtants parce que ça perturbe les mesures biologiques. Donc, il y a trop de bruit parce que les femmes fluctuent dans leur réaction. Et donc, en fait, on les met de côté. On va faire ça que sur les mâles. Le problème, c'est que quand on regarde, en fait, la variabilité... donc là, c'est une analyse qui a été faite, une méta-analyse sur 293 publications. Ils ont regardé la variabilité entre les femelles et les mâles en utilisant des souris, donc plus que 8000 souris qui ont été prises, où le cycle d'estrus n'a pas été pris en compte, particulier pour les femelles. On n'a pas vu plus de variations dans les animaux femelles qui ont été étudiés que chez les mâles. Donc cet argument est totalement faux. Et par ailleurs, s'il y a des choses à regarder, c'est encore plus de raisons d'aller chercher chez les femmes en cherchant exactement s'il y a des liens avec le cycle, les fluctuations hormonales et le cycle menstruel. Donc en fait, c'est très important de considérer effectivement le sexe biologique et le genre quand on prend soit des humains pour des tests cognitifs ou autres, soit les animaux. Mais le problème, c'est que ça demande plus de ressources. Quand on fait quand on met en place un nouveau projet, s'il faut vraiment regarder les différences entre les animaux mâles et femelles, etc., ça veut dire qu'il faut faire plus pour que ça soit statistiquement valable. Et donc, le point le plus important, pourquoi les femmes ont été évitées dans les essais cliniques, par exemple, c'est que quand elles sont en âge de reproduction, c'était trop risqué. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui a été vraiment un point important. C'est que la FDA, et puis c'était pareil partout dans le monde, ont décidé d'exclure les femmes pour l'impact, bien sûr, néfaste que certaines molécules pourraient avoir aux femmes qui pouvaient être potentiellement enceintes. Donc, les femmes ont été exclues pendant toute la période possible de reproduction. Donc, en fait, c'est la plupart de notre vie. Et donc, maintenant, ça veut dire que pour les médicaments, les femmes sont très souvent traitées comme des petits hommes parce que, en fait, le médecin va donner le médicament en fonction de notre taille et notre poids. Et donc, puisqu'on est souvent un peu plus petite, en fait, on est juste des petits hommes quand on est traité. Donc, j'espère qu'après mes 5 cours de cette année, vous avez réalisé que les femmes sont un peu plus que juste des petits hommes. Voilà. Et je termine sur ce message que je pense est très, très important. Aujourd'hui, on parle tous de médecine personnalisée, médecine de précision. Si on veut vraiment faire une médecine de précision, il faut quand même qu'on revienne un peu à la base et dire, ben voilà, si on veut traiter chaque individu, il faut faire autant des hommes et des femmes. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en considération. Et malheureusement, et je peux vous le dire, parce que je vois ça moi-même quand les projets sont mis en place autour de moi, très souvent, les gens ont tendance à vouloir exclure les données chez les femmes parce que les deux X, il y en a une qui est inactive en plus, donc c'est compliqué à analyser, donc on exclut. Voilà. Donc, il faut, si on veut vraiment que chaque individu dans notre société soit traité de manière précise, ça veut dire qu'on doit être traité différemment afin d'être traité de manière égale. Voilà. Donc, je termine le cours en vous montrant que les femmes sont bien des mosaïques. C'est encore une femme mosaïque que je vous montre ici, Marie Curie. Et pour ceux qui sont intéressés par, en particulier, toute la partie du cours sur le chromosome X chez les mammifères et le mosaïcisme et l'impact, je peux aussi vous conseiller un livre qui a été écrit par une des grands spécialistes de l'inactivation du X et du chromosome X chez l'humain, en particulier Barbara Midgeon. C'est un livre qui a été publié en fait il y a 10 ans environ, mais je l'ai relu là aussi pour mes cours et c'est toujours quand même pas mal d'actualité. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous conseille aussi ce livre. Et je voulais terminer en annonçant donc le colloque. Donc tout au long des cours, j'essayais de citer certaines des personnes que j'ai invitées en fait qui vont parler justement de différents aspects du cours. Alors par exemple Jos Grimnow. C'est un grand spécialiste des chromosomes sexuels, pas que du X, mais aussi du Y. C'est lui qui a participé à ce travail qui a montré que dans certains mammifères et l'obus, le Y disparaît. Il est carrément parti. Donc voilà, Joost va venir parler. Gabriel Marais, qui est la personne qui nous a parlé des quelques gènes sur le X qui doivent quand même être exprimés de manière plus importante au cours de l'évolution, justement parce qu'ils codent pour des protéines qui sont dans des complexes multifactorielle et que c'est très important de garder la stoichiométrie de ces complexes. Je pense que ça, c'est un concept très important qui va devenir de plus en plus apprécié. Et puis James Turner, qui travaille sur les marsupiaux. Je vous avais parlé aussi de l'opossum, qui, lui, a une inactivation du X, mais qui est gérée par un autre molécule. Et puis Montserrat Anguera, je vous avais parlé d'elle aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir venir écouter, même si les présentations seront en anglais. Je vais demander à chacun de vraiment faire un effort que ça soit aussi clair et grand public que possible. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc, le 14 mai, dans l'amphithéâtre Guillaume Budet, qui est à côté de l'amphi Marguerite de Navarre. Voilà, et je vous remercie beaucoup.